RMC.
PLM, tous les compagnies, bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, on a le droit d'exister un petit peu ou pas?
RMC, Football Show.
Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Oh mon Dieu, bordel de merde, que c'est bon!
Nicolas Villas.
Benarbia et Ludovic Obraniak, on vous rappelle que l'équipe de France féminine s'est imposée 3-1 face aux États-Unis. Match amical ce soir à 6 mois de la Coupe du Monde que vous suivrez sur RMC. Les résultats de ce samedi, 21e journée de Ligue 1, le carton plus que carton du PSG, 9-0 face à Guingamp. Toulouse s'est imposé 1-0 à Nîmes, un partout entre Reims et Nice, et le carton aussi de Strasbourg à Monaco, 5-1. Yann Pécheral nous a rejoint, salut Yann.
Bonsoir messieurs, salut à
salut
tous.
Yann,
alors
Yann,
petit teasing, dans quelques instants tu vas nous révéler ce que Thierry Henry a dit en conférence de presse. Il n'était pas content, Thierry Henry, après cette défaite 5-1. Pas juste content. Avant, on finit avec Cédric, supporter de l'ASM, qui nous avait appelé. Cédric, pardon, on était avec Lamine Koné.
Ça va, il n'y a pas de souci. Oui, donc après, c'est ce que je vous parlais de l'expérience peut-être de Thierry Henry, parce que c'est vrai que normalement il doit faire rentrer au moins un défenseur et puis sortir un attaquant. Bon, il ne le fait pas. Et puis bah, il y a un match à 6 points qui nous attend dans 8 jours parce qu'on joue à Dijon. Et bah c'est déjà un match plus qu'important parce qu'ils sont en lutte pour le maintien. Et sinon dans le jeu, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'on n'arrive pas à enchaîner. Moi, je vois un joueur comme Tillmans, il a fait un super match à Nice, et on n'arrive pas à enchaîner deux prestations voilà d'affilée. Il y a l'équipe aussi, hein. C'est pas tout Thierry Henry, hein. Donc c'est plus qu'inquiétant.
Alors justement, Yann, on va se tourner vers toi. Elle était comment cette conférence de presse de Thierry Henry, Yann Pécheral?
Petit moment surréaliste quand même ce soir. Thierry Henry nous a pris de court. Nous étions en train de discuter en salle de presse. Il est rentré furibard dans la salle de conférence de presse. Il s'est assis tout de suite et il nous a lancé « J'ai un scoop pour vous ». Ah bon, le temps d'allumer les caméras, et il était très 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 remonté contre l'arbitrage vidéo, et il nous a expliqué qu'à quelques minutes de la mi-temps, il y a selon lui un pénalty sur Ronny Lopez, un pénalty qu'il estime être flagrant, et à ce moment-là, eh bien le VAR ne fonctionnait pas. C'est ce que le quatrième arbitre lui a dit. Et du coup, bah, tout a tourné autour de ça, et c'était un petit peu surréaliste parce que selon lui, son équipe jouait bien à ce moment-là, son équipe avait la possibilité de revenir à 2-2, et il a estimé que c'était un scandale. Il demande pourquoi le VAR ne fonctionnait pas à ce moment-là, et ça a malheureusement un petit peu tourné autour de ça pendant toute la conférence de presse. Il n'a pas cessé d'y revenir sur ce moment-là, et quand je l'ai relancé pour savoir si quand même il n'y avait pas que ça dans ce match-là, il m'a fait un petit peu la leçon en m'expliquant que c'était un tournant du match et qu'il ne pouvait qu'en parler. Donc on a posé la question à Thierry Lauré après, savoir s'il y avait eu d'autres dysfonctionnements au niveau du VAR. Lui est resté très calme, il nous a dit que effectivement avant cette action litigieuse, le quatrième arbitre avait indiqué aux entraîneurs que le VAR ne fonctionnait pas, mais il a aussi ajouté que c'était pas la première fois que ça arrivait depuis le début du championnat et que ça arrivait assez régulièrement en Ligue 1. Parfois le VAR ne fonctionne pas, le quatrième arbitre prévient les entraîneurs, et puis on fait avec ou on fait sans, et puis on passe là-dessus. Mais peut-être qu'il y avait pénalty sur Ronny Lopez, c'est un fait de match. Tourner toute sa conférence de presse là-dessus, honnêtement, ça fait un peu gros. Ça ressemblait à un énorme contre-feu de la part de Thierry Henry, parce que ça lui a permis d'éviter de parler de certaines lacunes. Il est passé très vite sur le sur Naldo, sur Cesc Fabregas. Fabregas l'a trouvé très bon au milieu de terrain. Il a trouvé son milieu de terrain très bon. C'était par moments assez déroutant, j'ai envie de dire, comme conférence de presse de la part de Thierry Henry.
Comment vous analysez ça, vous, les gars?
Contre-feu, et puis aussi aveu de faiblesse. Quelque part, quand tu es pas capable de revenir sur un résultat où tu viens de te faire laminer à la maison, et que tu prends comme seule excuse une VAR hypothétique qui ne marchait pas. Bon, elle marchait quand il y avait 2-0 pour Strasbourg. Bon, tu vois, c'est dommage de se retrancher là-dessus. Thierry Henry, on connaît sa capacité à pouvoir relever les défis, son tempérament de gagnant. Il dit la vérité, tout simplement. C'est que les consignes sont peut-être pas appliquées, ou peut-être qu'il y a des lacunes individuelles, collectives. Mais dis-nous des choses. Tu peux pas. Enfin, après c'est aussi, ça fait partie du métier d'essayer de d'esquiver. Mais bah, là, sur une défaite comme ça, tu peux pas.
Peut-être que Gachot, il vit ça comme une profonde injustice. Non.
Tu peux pas dire, on a regardé le match, tu peux pas dire que ton milieu de terrain était bon, tu peux pas dire ce genre de choses.
Non,
tu ne peux pas.
Alors, Thierry Henry très nerveux pendant le match aussi. Je ne sais pas si vous avez vu cette scène un petit peu surréaliste où il lance des insultes, Thierry Henry. Je ne sais pas si vous avez vu ce moment-là. On l'a entendu à la télé, on l'a vu. Ça tourne un peu sur les réseaux sociaux.
Mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais son comportement, Yann, comportement corporel. Non, il a dit un truc.
Il pendant a le match, il a. Je ne sais pas si c'est à l'arbitre ou au joueur. Voilà, on va voir un petit peu parce qu'il y a deux versions. Soit il parle à Kenny Lala sur une touche à un moment donné et c'est des insultes. Enfin, on ne doit pas entendre ça de la part d'un entraîneur de Ligue 1. Soit c'est à propos de l'arbitre justement au moment du penalty. Lui, Thierry Henry, on lui en a parlé en conférence de presse. Et c'est vrai qu'il n'a pas nié à avoir eu des mots très durs. Mais voilà, c'est le reflet de cette nervosité qu'il y a eu pendant tout le match de sa part. On l'a vu faire des grands gestes à chaque action litigieuse, que ce soit contre les arbitres ou également contre ses joueurs. On l'a senti très 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 énervé très remonté quand il est arrivé.
Toi qui le suis, c'est pas la première fois. Au niveau du langage corporel, il y a rarement du positif. C'est souvent des bras ballants ou qui tombent vers le bas pour pester. Mais non, mais tu es dans une situation où tu comprends pas. Tes joueurs sont le reflet un peu de ce que tu projettes. Si toi t'es négatif tout le temps et que tu pèses tout le temps, tes joueurs ils sont là.
Un jeune entraîneur. Ludo.
Ouais, c'est un jeune entraîneur. Mais tu dois insuffler quelque chose de positif. Et tu vois, ils sont tous. Et tu les reconnais pas, les mecs. Tu dois justement les emmener, leur donner un peu de confiance, les encourager. Alors tu peux pester, mais pour moi le comportement, il est depuis le début. À chaque fois que je regarde, c'est il souffle, il baisse les bras, il tombe les bras.
Le comportement est important, mais quand tu commences comme Thierry Henry, que t'as un certain temps d'être entraîneur, t'es un icône en tant que footballeur, pas en tant qu'entraîneur. Et quand t'arrives et que ça ne s'arrête pas. Moi, je suis Monaco parce que j'adore Monaco. Hein. Tout est à chaque fois contre. Mais quand tu as un entraîneur qui a de l'expérience, déjà c'est très dur et t'as la marre. Tu t'en prends à l'arbitre, aux adversaires, au coach, à tes joueurs. Déjà quand t'es un coach d'expérience, je prendrai l'exemple d'un Courbis, admettons. Mais quand t'es un jeune entraîneur qui vient d'arriver à Monaco et que du début jusqu'à la fin, je l'ai vu, tout était contre l'AS Monaco. Et au début,
ce soir, on va pas revenir sur les absences, sur les blessés et tout ça. Il y a une équipe qui a de la gueule sur le terrain, sur le papier, au coup d'envoi ce soir avec les recrues.
Je suis d'accord avec toi. Et que tu perdes le match, que tu perdes, je te dirais oui. Mais au bout de 5 minutes, tu perds pas Badiachile. Tu perds sur quelqu'un dont tu comptes que même en étant très bon, c'est pas sûr que tu battes Strasbourg avec un super Naldo. Mais là, tu le perds au bout de 5 minutes.
Mais non, mais je le sens tellement frustré.
Mais il y a
par
quoi
par rapport à... Non, mais c'est par rapport...
Mais la situation...
C'est plus profond que ça. Mais la situation, si au bout de 3 mois, t'es nouveau coach, si au bout de 3 mois, tu baisses déjà les bras parce que t'as 5 mauvais résultats, c'est que c'est pas fait pour toi.
Vic, moi je vois Monaco, c'est pas 5 mauvais résultats, ça ne s'arrête pas. Ouais. Et tout est contre, il n'y a aucun... On dit, on parle pas des blessés. C'est un fait. 16 blessés, des problèmes à régler.
Mais c'est le rôle du coach de trouver les solutions.
Non, mais là, il te fait le film de la saison.
Non, mais je te fais le film de la saison. Ouais. Mais en plus, quand tu arrives, tu fais rentrer un joueur, il prend un carton rouge au bout de 5 minutes, l'autre, il se blesse, Naldo qui vient d'arriver, tu comptes sur lui. Eh ben, au bout de 5 minutes, c'est lui qui sort.
Mais je sais pas, moi, si je devais arriver.
Et qu'est-ce que tu fais?
Mais ton énergie, elle doit être communicative, tu viens d'arriver.
Mais il en a beaucoup d'énergie.
Tu prends des coups, il en a pris toute sa carrière des coups.
Mais en tant que joueur, tu réponds. Mais là, il peut pas répondre.
Et pourquoi il pourrait pas répondre?
Mais Ali, il est jeune entraîneur. Comment tu réponds? Vas-y.
Mais je sais pas, t'essayes de, moi, je trouve.
Il essaye.
Non, mais Ali, ce que veut dire Ludo, c'est que quand Thierry Henry arrive, Monaco est déjà dans une situation qui est compliquée. Si tu vas chercher un nouvel entraîneur, c'est aussi pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui soit insufflé. Il faut que ce soit positif. C'est ça ce que veut dire Ludo.
Mais quand il arrive, je l'ai vu, alors que je connais un petit peu Thierry Henry dans son caractère, je l'ai vu tellement positif sur quoi qu'il se passe. Il prenait son temps dès le début. Alors que tout était tout le temps contre lui, beaucoup plus que quand il y avait Jardim, déjà. Alors que ça n'allait pas du tout avec Jardim en début de saison. Mais là, c'est catastrophe sur catastrophe, et l'équipe, elle est en train de s'enfoncer de plus en plus et ça ne s'arrange pas du tout.
Ali, Ludo a raison quand il parle du langage corporel.
Mais ça, on l'a vu.
Mais on l'a vu. Tu sois comme entraîneur, tu n'as pas besoin d'insulter qui que ce soit, que ce soit un joueur, que ce
mais
soit
bien
un entraîneur.
Sûr que non, mais
c'est révélateur de quelque pas chose. Que c'est, et tu ce n'es pas, pas obligé encore un entraîneur. D'arriver en conférence de presse et de nous expliquer une nouvelle fois qu'on comprend rien au football et que c'est toute la faute de l'arbitrage et que son équipe a très bien joué.
En fait, moi, c'est pas une crise. Il a tellement à donner. Je sens une frustration chez lui par rapport à.
Ben, la réussite.
Oui, mais on peut la comprendre.
Non, Ludo,
tu peux la comprendre, mais t'as l'impression qu'il coach à contre-nature. Il a été bercé par Guardiola et tout ça. Il pensait qu'à Monaco,
il
allait pouvoir mettre en place ce dont il a appris.
Ludo,
au Barça, Ancelotti.
Non, mais c'est pas ça. Il n'a pas joué à Martigues, à Metz, quand il joue le maintien. Où là, il a l'habitude d'avoir des coachs quoi faire. Il a joué dans des clubs qui jouaient que le premier rôle. Donc tu passes qu'en tant que coach, qu'est-ce qu'il va apprendre ?
Moi, je te dis juste une chose.
Si je te suis dans ce cas-là, ça veut dire que Monaco, ils ont fait une erreur de casting en allant le chercher alors.
C'est ce que je comprends quand j'écoute Ali.
Moi aussi, moi je le décrypte comme ça, Ali.
Mais
t'es en train de nous dire, il nomme un mec qui a pas l'habitude de jouer le maintien. Il a été habitué à jouer que le haut du tableau. C'est ce que t'es en train de nous dire. Alors, c'est une erreur de casting d'être allé le chercher.
Mais déjà, c'est pas ça. Dans la situation.
Ah non, mais réponds. Alors, c'est ça que tu veux dire ou pas ?
Dans la situation où est Monaco, Jardim, qu'elle avait l'habitude de bricoler, il se plante complètement en début de saison parce qu'il perd des joueurs importants comme Fabinho et là-bas. Et qu'est-ce que tu fais ? Continue avec Jardim jusqu'à la fin de saison. Et là, tu peux commencer avec Thierry Henry en début de saison. Mais ne fais pas cette erreur d'aller chercher un jeune entraîneur ambitieux qui a connu que ce qui se fait de mieux, pas en tant qu'entraîneur, mais en tant que joueur. C'est ça le problème.
On va accueillir Sofiane, notre supporter de Monaco. J'en profite pour remercier Cédric qui nous a appelé au 32-16. Sofiane, qui lui en veut à Thierry Henry ce soir. Salut Sofiane.
Oui, bonsoir monsieur.
Salut Sofiane.
Alors vas-y Sofiane, on t'écoute.
Écoutez, je vous rejoins à peu près tous sur vos analyses sur Thierry Henry. Et voilà, on est les supporters, on est un peu déçus. Et voilà, on comprend pas. Voilà, pour moi, c'est une erreur de casting. Parce qu'on réalise pas qu'on est dans une situation où on n'a pas le temps, justement, d'accorder du temps, justement, à un entraîneur. Il faut des résultats. Il faut chercher des points. Il faut sortir de cette zone-là. Mais tout le monde se dit que c'est impossible. Non, Monaco, on peut pas descendre parce qu'on est encore dans l'euphorie de voilà, on a fait une demi-finale de Ligue des Champions, on a fini deuxième des dernières années, etc., etc. Mais si, c'est possible, on peut descendre et on le voit les situations qu'on rencontre en match. Et on prend un rouge, il y a tout qui tourne contre nous, on a des blessés, etc. Donc ça peut arriver. Et comme on a des bons joueurs, on a un effectif qui reste quand même un des meilleurs effectifs du championnat. On a l'impression que c'est pas possible, alors que oui, c'est possible. Monaco peut descendre en Ligue 2, et c'est une erreur de casting d'avoir pris Thierry Henry. Voilà, pour moi c'est une erreur de casting parce que c'est comme vous l'avez dit, c'est un jeune entraîneur. Ça a été un très bon joueur. On a tous du respect pour la carrière qu'il a eue. Mais bon, voilà, il s'est mis dans une situation et voilà, comme vous le dites, on a l'impression qu'il veut prendre une revanche contre, je sais pas, contre la France ou il veut briller d'entrée, il veut briller de suite. Et au final, il est venu au début avec beaucoup d'arrogance, j'avais l'impression, dans ses analyses, dans ses interviews d'après-match, etc.
Tu l'as trouvé comme ça, toi?
Non. Au début,
pour le coup, Sofiane était plutôt cool, même je suis pas avec
Ali. Au début, il était cool et il répondait clairement aux questions, ce que ne font pas tous les entraîneurs. Attention, qui tournent
pas toujours, messieurs. Il a quand même donné quelques leçons en conférence de presse d'après-match.
Elle était un peu étrange. Je te dis, mais est-ce que c'est, c'était pas cohérent et aujourd'hui encore c'est pas cohérent quand on parle de l'arbitrage, quand j'entends le milieu de terrain a été bon aujourd'hui, comment on peut dire
ça? Non.
Comment on peut Yann, tu disais, mais enfin Yann, tu dis de temps en temps il a donné des leçons, bah il y en a d'autres qui le font aussi, Yann, en Ligue 1.
Oui, bien sûr.
Mais quand t'as Thierry Loret en face de toi, Yann, t'as pas l'impression qu'il te donne des leçons?
À Thierry Loret, il a fallu lui demander si malgré le 5 ans, il était content.
Non, mais je veux dire
parce que. Ah, mais c'est Titi!
Thierry Loret a de l'expérience. Thierry Henry, en tant que coach.
Qu'on l'embrasse aussi.
Ce que je veux dire,
d'une, c'est qu'il n'a pas d'expérience. Et de deux, ça fait un moment qu'on l'a pas entendu dans la presse. Alors, venir en France.
Je comprends ce que disait l'auditeur et le supporter de l'AS Monaco. Ce sentiment-là qu'ont certains supporters de l'AS Monaco. Je comprends ce sentiment-là.
Mais moi, le sentiment que j'ai, même moi, qui suis à la rigueur, même maintenant supporter de Monaco, c'est une catastrophe de Ribolovlev à Vassiliev, au coach, aux joueurs, à tout le monde, là. Là, je suis supporter, là. c'est tout le monde qui est catastrophique. Donc j'en vois pas un qui sort du lot.
C'est compliqué. Et on va rappeler quand même que l'AS Monaco a peut-être l'un des effectifs, en tout cas c'est sûr, le plus grand nombre de joueurs professionnels sous contrat. On l'a déjà dit, 66 joueurs
ça, c'est pro, énorme.
Sous contrat avec l'AS Monaco. 16 prêtés, peut-être 17 parce que Grand Cyr est prêté à Strasbourg normalement ce soir. C'est la confidence que m'a faite Kader Mangan tout à l'heure. Donc ça reste, il laisse quand même 50 joueurs professionnels susceptibles de s'entraîner avec l'AS Monaco. Une masse salariale colossale. On peut pas
et combien disponibles?
Pour Ligue 2, ce serait complètement catastrophique. Combien disponible, Ali? Je pense pas que ce soit qu'il faille lancer ce débat-là, parce que est-ce qu'on va compter que Kevin Endoram, Jebels, Aoulou, des garçons qui sont indisponibles,
qui sont pas censés jouer à la base.
Ben voilà, quand on voit l'équipe de ce soir, je pense que l'équipe, si l'effectif complet de Monaco était disponible ce soir, peut-être que l'équipe alignée par Thierry Henry aurait quand même ressemblé à ce qui était aligné ce soir. Comprends ce que je veux dire?
Oui,
c'est-à-dire
non.
Que il manque des joueurs, c'est vrai, mais sur le papier, quand on va pas faire les comptes de combien ont été achetés les joueurs qui étaient alignés ce soir, mais quand tu joues avec Golovin, Ronny Lopez, Falcao, Tillmans,
Cesc
Fabregas au milieu de terrain, tu vois bien que c'est pas parce que Aoulou est blessé ou parce que Jebel s'est blessé ou voilà que
non, c'est
que
pas ça. Il y a je voulais dire par là que
on ne peut pas
une équipe qui joue en ce moment comme Strasbourg contre Strasbourg comme l'OM qui est au complet et qui va pas aussi bien que Monaco perdent et d'autres équipes comme Lyon perdent et juste Monaco qui sont catastrophiques et qui vont pas bien dans leur tête qui au bout de 5 minutes joue à 10 on trouve pas ça normal ou anormal, qui perdent aussi.
Yann, on va te libérer, Yann. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas.
Merci à vous. Et quand même, merci juste Yann. Un mot, parce qu'on en a parlé, mais super, super, super match de Strasbourg.
Ah, moi, j'ai adoré.
On a vu une équipe magnifique. Moment, hein. On a vu un garçon, Ajorc, devant, qui a réalisé un match exceptionnel. Il met deux buts absolument magnifiques.
Et c'est un travail.
Elle a mérité sa victoire et elle mérite sa place au classement parce qu'elle a été très séduisante.
C'est pour ça que je voulais parler ce soir, moi, beaucoup plus de Strasbourg que de Monaco.
Tiens, je vous donne une stat que Gilbert Bribois m'a envoyée, je suis obligé de la lire, bien que ce soit une stat complètement bidon. Strasbourg est la seule équipe européenne qui a gagné 4 victoires à l'extérieur d'affilée, 100 matchs à domicile entre. Tu comprends ou pas? Il y a 4 matchs d'affilée. On est d'accord.
Voilà,
on est d'accord. Voilà, j'ai fait le taf, Gilbert.
Donc ça veut dire quoi?
Entretien annuel, on va en parler dans quelques jours.
Donc tu peux dire à Gilbert Bribois que la méno ne sert à rien.
Non,
le stade de la méno, faut plus qu'il joue à la méno.
C'est pas bon.
Voilà. Et Thierry Lauré a confirmé que
Gilbert Bribois disait n'importe quoi au niveau des stades.
Face au Paris Saint-Germain, c'était tout sauf la priorité du Racing Club de Strasbourg, si vous voyez ce que je veux dire.
D'accord. Écoute, on était avec Lamine Koné tout à l'heure aussi. Et lui, il a pas peur, hein, sache-le.
Mmh. Ouais, il a pas peur, mais je suis pas sûr qu'il joue. J'ai cru comprendre que ça allait beaucoup tourner quand même.
Ah, d'accord.
Mmh. Voilà.
Yann, merci beaucoup en tout cas pour ces infos. Salut Yann, bonne soirée à toi. Sofiane, merci d'avoir été avec nous. Sofiane? Ah voilà, il s'est barré, Sofiane.
Non, je crois qu'il est allé à Monaco, là.
Il allait.
Gilet rouge et blanc.
En tout cas, il y a beaucoup d'appels au 32-16 pour revenir justement sur le cas de Thierry Henry. Il y a Yves qui est supporter du PSG, mais qui voulait parler de Thierry Henry également. Salut Yves.
Et salut Nicolas, salut Ludo, salut Yves.
Alors Yves, je crois que tu voulais t'exprimer également sur le cas de Thierry Henry. On rappelle, défaite 5-1 de Monaco ce soir à domicile face à Strasbourg.
Exactement. Alors déjà, je voudrais dire à quel point je suis content de parler à Ali Bernardière, parce que en tant que supporter du Paris Saint-Germain depuis très très longtemps, mais j'ai adoré Ali. J'ai pas aimé Ludo, juste l'espace d'une soirée, mais franchement, c'est tellement bon. Mais franchement, je suis hyper content de vous parler.
Avec mes copines aussi.
Très cordialement.
Et non, oui, je voulais revenir en fait sur Monaco. Alors c'est vrai que c'est bizarre de la part d'un supporter du PSG, mais en fait, comme j'ai dit au Standard, je suis supporter, mais je suis pas fanatique en fait. C'est-à-dire que moi, je suis un amoureux du football, je suis tout, je regarde tout. Et Thierry Henry, en fait, pour moi, c'est une énigme. En fait, je comprends même pas très franchement pourquoi on l'a recruté pour ce poste dans la situation dans laquelle est Monaco, parce que pour moi, ça colle pas ensemble. C'est juste pas la bonne personne au bon poste, et pour moi c'est juste une évidence. Et en plus, si on se penche un tout petit peu sur son parcours, sur ce qui s'est passé, on s'aperçoit, contredisez-moi si je me trompe, hein, mais il a pas les qualités requises, enfin c'est pas un leader, il a pas ce qu'il faut, je veux pas remuer le couteau dans la plaie, revenir dans le passé, mais souvenez-vous de Meissner en 2010,
alors que pourtant c'est l'ancien, c'est la star, c'est le leader, il remet pas les.
Je vais te couper juste deux minutes pour Naïsna. On va oublier Naïsna avant ce qui se passe. Je pense que Domenech, soit il prenait Thierry Henry, il le faisait jouer titulaire comme leader, soit tu ne le prenais pas.
Bah c'est surtout que non mais c'est surtout Yves que Naïsna, c'est pas lui l'entraîneur surtout. Tu vois là il
non,
a
non mais, je suis d'accord.
Non, mais c'est même
non,
pas
mais
ça,
c'est que non mais
c'est pas
non,
ça
c'est
que
c'est pas l'entraîneur. C'est pas ça que je veux dire.
Non mais à ce moment-là, à ce moment-là, Thierry Henry dans le vestiaire n'est plus rien.
Ouais. Il est pas titulaire, voilà.
Il est pire que pas titulaire, il est mis de côté alors que c'est censé être plus ou moins la star de l'équipe.
Exactement.
Alors, ça a été l'erreur à la rigueur de Domenech. C'était soit tu le prends et tu le mets leader capitaine, soit tu ne le prenais pas.
Ok. Alors, ok, d'accord. Je vais te donner ça parce que c'est vrai que moi, je me basais là-dessus et sur autre chose que je vais développer ensuite, sur le fait que bah, moi, j'ai connu un tout petit peu Thierry Henry étant jeune parce que moi, j'ai joué en cadets nationaux à Versailles avec lui. Donc, j'ai fait une saison avec lui dans le vestiaire. J'ai joué aussi avec Jérôme Roten en pupille et en minime avant ça. Et moi, le souvenir que j'ai de Thierry Henry, si vous voulez, c'est que c'est quelqu'un. C'est pas un leader charismatique, il emmène pas le groupe derrière lui. C'est alors évidemment on revient à une période où il avait 15-16 ans, donc les gens évoluent, maintenant j'en ai 40 et lui aussi, mais j'ai pas le souvenir de quelqu'un qui tirait le groupe derrière lui, j'ai pas le souvenir de quelqu'un qui est un leader, et en fait en suivant un petit peu sa carrière, ben j'ai pas l'impression de ressentir des qualités de leadership chez lui. C'est quelqu'un d'individualiste, c'est quelqu'un qui pense à lui. Je vois pas le côté manager, tu vois, le côté manager c'est vraiment le côté
c'est vrai que c'était tu l'as connu à un âge à 7 ans. Toi tu l'as connu un peu plus tard d'ailleurs, toi.
Oui.
Voilà, il a quand même été capitaine, ça a été voilà un taulier quand même ce gars Ali, tu l'as connu dans le vestiaire toi.
Oui, non, dans le vestiaire c'était bon, il était jeune déjà, ouais. Thierry, bon, mais c'est un attaquant, et un attaquant en général, c'est individuel, ça pense à lui, et moi je suis pour les attaquants qui pensent à eux. Je veux pas d'un attaquant qui passe à l'équipe, je veux d'un attaquant qui pense à lui pour mettre les buts au fond. Et quand tu es un attaquant comme il est, comme on peut avoir même, allez, un Messi ou Ronaldo, je pense pas que ce soit des leaders qui vont d'un tout coacher ou alors leur équipe, parce que individuellement ils sont tellement forts que d'abord, pour être aussi forts, ils pensent à eux. Je suis d'accord dans ce caractère-là, et Thierry Henry a toujours joué aussi pour d'abord penser à lui, pour briller et faire gagner son équipe. Maintenant, après, la position d'être coach est une autre chose, et est-ce qu'il est coach? Il a été juste un petit peu adjoint, donc on peut pas savoir qu'est-ce que peut donner Thierry Henry comme coach. On le découvre à peine maintenant avec la situation de cet AS Monaco, pas un autre AS Monaco, l'AS Monaco de maintenant.
Merci Yves d'avoir été avec nous.
Ben oui, voilà, et c'était dans ce contexte que je voulais bien expliquer ça, et après je vous laisse parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde, mais c'est dans le contexte de l'AS Monaco maintenant. Tu prends Thierry Henry il y a 2 ans quand Monaco marche bien, c'est autre chose, mais là il va falloir aller faire la compétition à Antoine Camboire pour le sauvetage. Ben, bonne chance. Hein.
Ouais. Bonne soirée Yves, merci d'avoir été avec nous.
Salut Yves, merci. Bonne soirée Ali, merci.
Merci, bye bye. Ciao. On vous rappelle les résultats donc de ce samedi 21e journée de Ligue 1. Le carton du Paris Saint-Germain, victoire 9-0 face à Guingamp, victoire 1-0 de Toulouse à Nîmes. Monaco qui perd donc 5-1 à domicile face à Strasbourg, un partout entre Reims et Nice. Au classement, le PSG compte 53 points et son leader avec 13 points d'avance sur Lille. Demain, il y a le derby, hein, vous le savez, entre Saint-Étienne et Lyon. Saint-Étienne qui compte 2 points d'avance sur l'OL au coup d'envoi de ce match. Saint-Étienne qui est 3e et qui a 4 points de retard sur Lille, mais qui compte donc un match en moins également. Strasbourg est 5e ce soir, avec 1 point d'avance sur Montpellier. Montpellier a 2 matchs en moins par rapport aux Alsaciens. Et puis on a Marseille, 9e notamment, avec 28 points. Marseille qui jouera demain face à Caen également, d'ailleurs. Voilà, sachez-le. Il n'y aura pas Luis Gustavo dans le groupe, d'ailleurs.
Alors cette saison, on parle...
Oui, il est blessé, ouais, il était blessé.
Habituellement, on parlait ces 4 dernières années du temps de Galtier, de cette équipe de Saint-Étienne. Cette saison, on n'en parle pas beaucoup du tout, en dehors de...
Oh bah quand même, là, ça frétille quand même.
Maintenant, rappelle-toi, depuis le début de la saison, on n'en parlait pas autant. Est-ce que c'est pas cette équipe, avec notre ami Gassé et Cazeri, qui continue à confirmer ce qu'avait fait Rennes, qui, sans parler, va se rapprocher de cette deuxième, troisième place, s'ils sont sérieux, parce qu'ils ont aussi des joueurs qui savent gérer par rapport à leur âge. On pense à Subodic, Perrin, on a vu, Selnaes, Gassé, Mvila, qui revient avec la revanche, qui est intelligent, posé et tout. Est-ce que c'est pas cette équipe qui va pouvoir passer entre les gouttes pour se positionner entre la deuxième et la troisième place.
Et tu parles de joueurs d'expérience, sachez que demain, ce sera le retour de Debuchy également. Il s'était blessé au mois de décembre, il se dans le groupe également pour,
Ruffier,
voilà, pour le derby.
Ils ont quand même Colédiac, ils ont quand même des joueurs d'expérience.
Dans quelques instants, on va filer en Espagne, retrouver Fred Hermel. On va revenir sur la victoire 2-0 du Real Madrid face à Séville, celle de l'Atlético 3-0 à Huesca. Et puis on abordera également les affiches en Angleterre, notamment la victoire d'Arsenal 2-0 face à Chelsea, celle de United aussi. Et Liverpool qui a eu du mal hein, face à Palace, mais qui restera leader. C'était de toute façon le cas, quoi qu'il arrive d'ailleurs, à l'issue de cette journée. Mais ils se sont imposés 4-3 face à Palace. On vous dit à tout de suite avec Ludo Bragnac et Ali Benrahi.
RMC Football Show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Et Ali Benrahia et Ludovic Obraniak, messieurs, on a analysé les résultats de ce samedi en Ligue 1. On va filer maintenant à l'étranger. On va filer notamment en Espagne, retrouver notre Fred Hermel. Salut Fredo.
Hola Chico.
Salut.
Ça va? Ah ben il va très bien.
Ouais.
Il a eu froid aujourd'hui à Bernabéu, mais
ouais.
C'était peut-être.
C'est froid à Madrid là?
Bah oui, on est quand même à 650 mètres d'altitude, ouais. On est quand même sur un plateau, c'est quand même très continental, donc il fait froid l'hiver ici. Mmh. Et mais j'étais un peu réchauffé par sûrement le meilleur match du Real de la saison, quoi. Enfin, surtout en deuxième période, plutôt du bon football à Madrid, en tout cas dans le Bernabéu, ça fait du bien, parce que ça faisait quand même plusieurs mois que ça n'arrivait pas.
Alors on rappelle hein, les résultats d'ailleurs de ce samedi en Espagne. 20e journée de Liga, le Real Madrid qui a battu Séville 2-0, victoire de l'Atlético à Huesca 3-0, victoire de Valence qui était menée 1-0 à Vigo face au Celta, qui s'est imposé finalement 2-1. Au classement, le Barça qui jouera demain face à Leganés est toujours leader avec 2 points d'avance sur l'Atlético, qui compte 5 points d'avance sur le Real Madrid, qui compte maintenant 3 points d'avance sur Séville. Voilà.
Oui, bah, ce qui c'est, commençons par le premier match,
le
match à Bernabéu, oui, parce que c'était quand même l'affiche de ce week-end. Séville est quand même l'une des très belles équipes de la saison.
Ils étaient égalités au coup d'envoi d'ailleurs.
Ils vont moins bien en ce moment, hein, c'est ça?
Un petit peu moins bien. On peut quand même dire que la tactique de Solari, qui est en train de vraiment s'imposer comme un entraîneur avec des idées très claires et un grand pouvoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Marcelo encore sur le banc et Isco encore sur le banc et qui n'entre qu'en fin de match. Donc Marcelo, quand même, ça fait quand même 2 matchs importants. Le match à Séville la semaine dernière contre le Betis et le match d'aujourd'hui contre le Sevilla Football Club, où Marcelo, qui est un vice-capitaine, un type incontournable depuis 10 ans au Real Madrid, qui aujourd'hui ne joue plus parce que Solari considère qu'il n'est plus assez bon défenseur. On sait très bien que c'est un très bon attaquant. D'ailleurs, il a joué en coupe à Leganés comme ailier gauche. Mais aujourd'hui, c'est le jeune Reguilón qui joue à la place de Marcelo. Donc, je ne sais pas combien de temps Solari sera sur le banc jusqu'à la fin de la saison, a priori. Mais je ne suis pas sûr qu'il continue après. Mais tant qu'il sera sur le banc, c'est un entraîneur qui fait des choix très forts. Et sincèrement, je l'ai pas dit souvent cette saison, hein, mais le Real, notamment en deuxième période, c'était vraiment supérieur à Séville. Et puis, hein, dans la vie, vous savez, hein, quand on est français et qu'on a nos âges, la quarantaine bien frappée, on sait que les milieux, les numéros 10 à l'ancienne, quand ces joueurs marchent, les équipes de foot marchent, quand Modric fonctionne, c'est le Real qui fonctionne. Modric, son plus beau match.
D'ailleurs, les deux buteurs, c'est Casemiro et Modric. Et quel but Casemiro, d'ailleurs?
Une frappe
qui nous met pour en revenir, Fred. Dès que Casemiro, déjà dans cette équipe, n'est pas là.
Il était blessé pendant près de 2 mois, ça s'est senti.
Exactement. Où joue très bien, l'équipe est différente. Et c'est vrai que quand Modric est à la baguette, automatiquement, les autres, c'est beaucoup plus facile.
Mais il a été très bon. Très très bon, c'est-à-dire qu'on sent que physiquement, ça y est, il se remet de cette année incroyable 2018 où il a joué trop de matchs, trop de matchs, et donc il était épuisé physiquement et mentalement. Et j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec lui derrière. Il était il se sent bien, il est heureux, il retrouve cet influx nerveux. Que vous savez que vous les footeux, vous avez tous les sportifs de niveau ont besoin. Par moment, le physique a besoin d'être accompagné par la tête. Et la tête, le peps, il est là. Et c'est vrai que 2 buts en 2 matchs quand même, de Modric, puisqu'il avait marqué à Séville l'autre jour. Et donc, contre le Betis. Et donc aujourd'hui contre le Sevilla FC, il a marqué le 2e but. Donc une victoire très claire du Real Madrid. Et les gens ont pris plaisir. Et je dis, c'est quand même une nouvelle cette saison. Et je me dis, Eh ben, c'est toujours la même histoire. On est quand, là? On est au mois de janvier. Qu'est-ce qui revient au mois de février? Pas encore les hirondelles. Maintenant, c'est la Ligue des Champions. Ouais, et c'est fou. Cette équipe, elle a plein de problèmes. Ça, on dit, c'est fou, ils sont foutus, etc. Et dès que revient pas trop loin, que ça s'approchait, la Ligue des Champions, ben, ça y est, ils se remettent en marche. Et j'ai eu l'occasion de discuter à la mi-temps avec un immense monsieur du football, Jorge Valdano, qu'on connaît surtout comme commentateur, mais enfin les plus vieux le connaissent comme vainqueur de la Coupe du Monde avec Maradona.
Directeur
quand même,
sportif du Real, c'est ça?
Entraîneur du Real, directeur sportif du Real. Aujourd'hui, il est simplement commentateur à la télé espagnole. Et à la mi-temps, ça faisait que 0-0. Et je discutais avec Rolleray, que je connais depuis très longtemps. Il me dit, c'est pas encore parfait, mais on sent que ça commence à se remettre en place. Il me dit, comme il y a la Ligue des Champions, ça y est. Il me dit, je trouve que la première période, et c'est vraiment la deuxième période qui était bien, mais notre discussion avait dû au repos. Il dit, voilà, on sent que ça commence à se, voilà, que chacun commence à retrouver sa forme, le jeu collectif commence à retrouver une vraie consistance. Comme si, le pulse, voilà, la machinerie recommençait à être huilée alors qu'arrivaient des matchs importants. Et alors je dis pas que le Real va gagner des champions, hein, c'est pas du tout le cas, mais c'est à dire que il y a encore un mois, on se disait ils risquent de se faire taper par l'Ajax, et là on se dit ça y est, ça commence à se remettre en place, quoi. C'est ça, les grandes, très grandes équipes, quoi. Voilà, les crises, elles durent pas 6 mois, quoi.
Et il a été comment Benzema, qui a joué d'ailleurs? Alors il s'est fracturé le droit, je crois, c'est ça, il y a quelques jours.
Oui, alors c'est en fait le problème, la semaine dernière il s'est fait fracturer le petit doigt de la main droite, mais il y a un tendon qui est touché. C'est ça qui lui fait mal, en fait. Donc il a joué avec une attelle. Moi je trouve qu'il a fait un match plus que correct dans le jeu, etc. Voilà, les informations que j'ai pu avoir ce soir et que je vous transmets là, c'est que ça a été plus ou moins bien, voilà, mais qu'il a encore une douleur. Donc l'opération n'est toujours pas écarté. Voilà, c'est le message qu'on m'a transmis il y a 10 minutes. L'opération est toujours pas écartée. Demain, il y a un repos. On va voir comment il va se sentir. Et lundi, mardi, il fera un nouveau point avec les médecins. Mais voilà, c'est gênant quand même, hein, surtout pour un attaquant comme Benzema qui aime bien jouer deux buts, etc. On a quand même besoin des bras et donc des mains, quoi. Donc voilà, pour l'instant, Benzema peut jouer comme ça, mais si la douleur persiste et si la gêne persiste, il sera peut-être obligé de se faire opérer.
Il serait absent combien de temps s'il se fait opérer? 15 jours à peu près. C'est pas énorme, non plus.
Mais donc ils vont prendre la décision très vite parce qu'il y a la Ligue des Champions. Le Real joue le 13 février, si je me souviens bien. Donc il va falloir vite se décider, quoi. Mais pour l'instant, voilà, ni l'opération est décidée, ni elle est totalement écartée.
Fred, on voit depuis plusieurs matchs où c'est les milieux de terrain qui font souvent la différence. Qu'en est-il du secteur offensif et de l'éclosion du jeune Vinicius? Je crois qu'il a joué ce soir, non?
Ouais, il a encore été très bon, quoi. Alors, bien sûr, il a 18 ans, bien sûr, il est brésilien, bien sûr, il est joueur de côté, et bien sûr, il adore les dribbles, donc il en fait parfois un tout petit peu trop, mais c'est un joueur différent. Voilà, dès qu'il prend la balle, le mec, il peut te dribbler trois défenseurs sans aucun problème. Il est aujourd'hui l'élément différentiel du Real Madrid. Et puis, voilà, le foot, c'est aussi la communion avec les supporters, et ils ont trouvé leur nouveau chouchou. Voilà. Et donc, il y avait un peu plus de monde à Bernabéu. Il y avait quasiment 70 000. Donc, c'est quand même une belle entrée. Il y avait 68 000 et quelques. Donc, c'était bien. Et les gens étaient plutôt contents. Et Vinicius, dès qu'il touche le ballon, les gens se disent, ah, il se passe quelque chose, quoi. Donc, il faut voir. Et Lucas Vazquez a encore fait un bon match. Donc, carrément, on vient d'en parler. Et puis, il y a Bale qui est toujours blessé, mais qui va bientôt revenir. Donc, voilà.
Et tu penses pas, toi, que pour, alors, on parle de la Ligue des Champions, mais tu penses pas que quand ça va sûrement passer l'Ajax, mais une fois que tu auras passé l'Ajax, tu trouves pas que Vázquez, Benzema, Vinicius, c'est un peu l'edge pour aller
Il y aura Bale. Il y aura Bale. Ouais, Bale sera de retour.
S'il revient de
Bale sera de retour. Ouais, donc ce sera Bale.
Si
ce sera Bale, Benzema.
Et Asensio ont disparu, c'est ça le problème.
Ou alors, Isco, de toute façon, il va plus jouer, c'est fini.
Non, mais c'est sûr, ça, c'est vraiment, c'est définitif.
Ouais,
ça.
Non, mais ouais, je pense qu'il va partir.
Et Asensio?
En tout cas, tant que Solari serait sur le banc, Isco va plus jouer.
Il fait des choix forts quand même, le Solari, là.
Ouais, bah oui. Mais Isco,
pour quelle raison, Fred?
Parce que c'est un feignasse. Voilà. Bah non, mais on va dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je connais très bien Solari, hein. Et Solari, c'est Zidane, hein. C'est la même façon de fonctionner.
Et Asensio?
Devant les médias, c'est très clair, c'est calme, et non, tout va bien. Je dois faire des choix pendant les 24. Mais c'est très simple. Si tu veux tenir ton groupe, il faut être juste dans tes 11. Et les gens qui ne sont pas qui ne travaillent pas assez, qui ne sont pas bien, eh ben ils ne jouent pas. Ben là, c'est la raison pour laquelle Isco et Asensio ne jouent pas. Isco et Marcelo ne jouent pas. Asensio, il est toujours blessé, mais il fait une saison pourrie. C'est la grosse déception. Mmh. Voilà, c'est la grosse déception. Et personnellement aussi, parce que moi, c'est un joueur qui devait exploser, qui l'a pas fait.
Ouais. Un mot Fredo aussi sur l'Atlético qui gagne 3-0 à Huesca. Alors, avec un premier but signé Lucas d'ailleurs. Hein,
celui premier but de sa carrière.
Ouais. Ah ouais, c'est carrément.
Bah oui, il a fallu 107 matchs chez les pros, hein, parce qu'après.
C'est pas ce qu'on lui demande non plus.
Non, c'est parce qu'on lui demande, mais enfin, c'est toujours un petit événement. 107 matchs avec les pros, avec l'Atlético, premier but sur un centre de Coquet. Lucas Hernandez qui ce soir a eu son premier poste de titulaire depuis sa blessure au mois de décembre. Il a joué comme latéral cette fois. Alors cette saison, il a quasiment joué tout le temps défenseur central, notamment à cause des blessures. Et Lucas a été l'un des tout meilleurs joueurs de l'Atlético. Il est notamment responsable, enfin à l'origine du troisième but de son équipe. Donc on a un Lucas Hernandez qui... rappelez-vous ce que je vous disais avant Noël. Vous savez, quand on disait, Marca disait, il va partir, etc. Bon, moi, j'avais eu l'occasion, maintenant je peux vous le dire, de lui parler directement. Bon, on savait très bien que si l'Atlético s'allongeait...
sur l'œuvre du Bayern.
Bah voilà, c'est... voilà que,
il allait rester.
Très bien Madrid. Bah oui, après, je comprends parce que...
C'est assez surprenant pour le noter qu'un club comme l'Atlético... arrive comme ça
à les moyens
et à les moyens
avec son nouveau stade.
De pourquoi tu trouves ça
ces talents
ça fait un moment quand même que ça dure ça, Ludo. Ils ont fait l'effort avec Griezmann notamment.
Ouais, mais je trouve que même dans les grands clubs aujourd'hui, c'est pas si facile de tenir tes. Ils ont toujours des envies d'ailleurs. Ils pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. L'Atlético, je considère que c'est un grand club. Donc bien sûr, ils sont en capacité.
C'est là qu'on se rend compte.
Dans des grands clubs, t'as toujours des joueurs qui veulent aller ailleurs.
C'est l'Atlético qui a tant vendu Barça.
Je trouve ça. C'est pas. Cette institution est quand même. C'est assez extraordinaire ce qui se passe là.
C'est très intéressant ce que tu dis, Ludo. C'est très intéressant, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu fais le parallèle avec cet Atlético qui devait vendre Kun Agüero, qui devait vendre Diego Forlán, qui devait vendre Radamel Falcao. Parce qu'à l'époque, l'Atlético était un club endetté. L'Atlético était un club qui avait de gros problèmes financiers. Il se trouve qu'il y a un certain Monsieur Tebas qui a accompagné une loi espagnole, j'en parle souvent, mais qui était décidée par l'ancien gouvernement avec une DNCG qui est terrible. Et donc, ça a assaini énormément les finances de beaucoup de clubs. Et c'est vrai que l'Atlético, après, il y a eu de nouveaux investisseurs, dont les investisseurs de Wanda, qui sont partis, mais qui ont été remplacés par un financier israélien. Donc, il y a de l'argent, il y a une très bonne gestion, et puis, il y a ce nouveau stade. Ce nouveau stade, qui est beaucoup plus grand, qui est plein. L'Atlético, et puis, les amis, l'Atlético a quand même fait deux finales de Ligue des Champions, et a gagné l'Europa League lors des cinq dernières années. Donc, voilà, on parle.
C'est une finalité en soi, quoi, l'Atlético aujourd'hui. C'est pas juste.
Il suffit de regarder Griezmann. Ouais. Griezmann, il reste à l'Atlético, uniquement parce que
son salaire est augmenté. Et Costa qui revient.
Et il y en a un qu'on n'a pas cité, mais qui reste aussi, qui est tout le temps annoncé partant, c'est Simeone, les gars, aussi. Hein.
Oui.
C'est surtout ça aussi, c'est la capacité pour cet entraîneur qui est quand même assez exigeant.
Et demandé.
Et
tout le monde le demande.
Et les joueurs adhèrent toujours. On voit pas une lassitude.
Il y en a eu un petit peu l'an dernier quand même.
Un peu. L'an dernier,
il y a eu de la fatigue. Il y a eu. Puis ils se sont pas qualifiés pour les huitièmes de Ligue des Champions. Après ils gagnent la Ligue Europa contre l'OM, on s'en souvient. Mais il y a eu un moment de doute, etc. Griezmann voulait partir, etc. Et puis ils ont commencé à mieux s'installer dans leur nouveau stade. Là, c'est la deuxième saison. Ils ont pris leur marque. Le public aussi. Et voilà. Et puis il y a eu un nouvel élan, et puis surtout il y a eu de très bons joueurs qui sont arrivés. Quand on voit Rodrigo qui est arrivé de Villarreal, Thomas Lemar qui est arrivé, Correa qui était là déjà avant mais qui a de plus en plus de protagonisme. Quand on voit par exemple que Oblak, pour moi c'est le meilleur gardien du monde. Donc il y a un moment les bons joueurs restent, et puis ils se rendent compte que quand il y a un excellent joueur. Je pense que sincèrement que le non-départ de Griezmann, c'est un message énorme envoyant tout le monde. C'est-à-dire que les autres se disent, bon, si l'un des meilleurs joueurs du monde, si Griezmann est l'un des meilleurs joueurs du monde, il est avec Cristiano et Messi, il est dans le top 3, voilà, c'est clair, quoi. Antoine Griezmann reste, les autres se disent, il y a quelque chose à faire ici. Donc, à partir du moment où t'as le meilleur gardien du monde et t'as l'un des meilleurs attaquant du monde dans ton équipe, bah tu te dis bah il y a quelque chose à faire et c'est beau. Moi je il y a une belle ambiance au sein d'Atlético et puis surtout c'est plus ce club un peu de bricolage qu'il y a eu avant. Le fils Ril, Miguel Ril Marín, n'est pas du tout son père, c'est pas un magouilleur, c'est un mec très bien. Et puis ils ont un gros développement, ils travaillent beaucoup sur l'Asie. Il y a eu la Chine,
ouais, vraiment, mais le père, il a eu des casseroles, il a eu des réussites aussi, hein, le père Ril, ouais, Ril, même si c'était plus que limite, hein, ce qu'il faisait,
ouais,
il
avait du caractère aussi.
C'était un autre temps, j'ai envie de te dire, mais
ouais, c'était, non mais je veux dire, c'était quand même,
il n'y avait pas la DNCG.
Ouais, non, puis à l'époque, non, il est quand même le truc le plus magnifique qu'a fait, je dis magnifique avec ironie, c'est qu'il était maire de Marbella, et il était président et propriétaire d'Atlético, et il faisait payer le maillot une fortune, le sponsor maillot Marbella, c'était le sponsor maillot le plus cher de du monde à l'époque, et c'était les contribuables de Marbella qui payaient le maillot de l'Atlético il a été condamné pour tout ça. Là, Miguel Ril, ça n'a rien à voir. Quoi. Il veut vraiment se démarquer par rapport à tout ça. Et l'Atlético aujourd'hui est un club sain, un club sympathique et surtout un club gagneur. Quoi. C'est-à-dire que moi, je connais beaucoup de gros clubs en Europe qui ont beaucoup plus de moyens et qui aimeraient bien être en finale, ne serait-ce même si tu la perds, d'être en finale de la Ligue des Champions. Mmh. Au moins une fois, l'Atlético l'a fait deux fois. Donc aujourd'hui, il y a des sponsors, il y a tout. Donc les choses vont bien. Et puis, et j'en termine là-dessus, le fait que Diego Simeone et toujours cette passion, ça fait que l'Atlético fonctionne, quoi. Voilà, c'est, je crois que ça fait 7 ans qu'il est là. Il est arrivé en 2011, décembre 2011, si je me souviens bien. Ça fait 8 ans.
Merci Fredo.
Ciao, Fred.
Merci les amis.
Bonne nuit, mon Fredo. Merci.
À très très vite.
Merci, bisous Fredo, bonne nuit à toi. On rappelle, victoire donc du Real 2-0 face à Séville, victoire de l'Atlético 3-0 face à Huesca et Valence qui s'est imposé 2-1 à Vigo face au Celta. Dans quelques instants, on va revenir sur les affiches de Première Ligue. Journée de folie. Vous avez peut-être vu d'ailleurs sur RMC Sport cet après-midi. On revient dans quelques instants avec Ludo Bragnac et Ali Benarbia.
RMC Football Show. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
Accompagné d'Ali Benarbia et de Ludovico Bragnac. Quelques résultats également en Angleterre. 23e journée de Première Ligue que vous avez peut-être suivi d'ailleurs avec nous sur RMC Sport également. Il y avait un derby du côté de Londres, match entre Chelsea et Arsenal à l'Emirates, victoire 2-0 des Gunners. United, Manchester United qui a battu Brighton 2-1. C'était juste avant d'ailleurs. C'est un match qui était important d'ailleurs également, ce United de Brighton, puisque avec ce succès, United était passé devant Arsenal au classement le temps que ce derby se joue. Et Arsenal a répondu donc avec ce succès 2-0 face à Chelsea. Et puis Liverpool qui a battu Palace 4-3. Autre match de taré, le match entre Wolverhampton et le Leicester de Claude Puel. Wolverhampton qui a mené 2-0. Leicester qui a égalisé. Il y a eu 3-2, il y a eu 3-3. Et finalement, Wolverhampton s'est imposé 4-3 face à Leicester. On va débuter par ce derby entre Arsenal et Chelsea. Victoire 2-0 des Gunners avec deux buts français. Lacazette a marqué le premier. Koscielny a marqué lui aussi avec un peu de réussite. Arsenal qui revient à 3 points des Blues. À 3 points donc de la 4e place qui, rappelons-le, est qualificatif pour la Ligue des Champions. Ah voilà, c'était un gros test là pour Emery. Il l'a passé ce test. Hein.
Ben oui, puisque tout le monde critique, commençait. Tout le monde faisait des louanges. Maintenant, en si peu de temps, commençait à critiquer Emery pour te dire que de nos jours, s'il y a un job que tu dois pas faire, c'est bien coach. Parce que c'est un petit peu du n'importe quoi.
Tu veux dire qu'on passe de tout à rien
C'est même plus, admettons, une idée précise. C'est comme le vent. Tu passes la Tramontane au Mistral à moins de 5 minutes. Et là, on se rend compte que les objectifs des clubs, faut pas regarder par rapport à ce qu'on voit, mais c'est se qualifier pour la Champions League. C'est ce que faisait très bien Arsène Wenger pendant plusieurs années. Et au moment où il n'arrive pas à le faire, hop, il quitte le poste. Ce qu'on va demander à Emery. Et de nos jours, en Première Ligue, de jouer la Champions League, c'est un super job et un super objectif avec les clubs qui sont en place à ce moment. Et Arsenal, habituellement ces dernières années, ne se bousculait pas par rapport au top 4, au top 5. Là, il commence à y être et ça, c'est une bonne chose pour Arsenal.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, Ludo ?
Moi, je suis un peu d'accord avec Ali. Arsenal retrouve, sous l'impulsion de Unai Emery, là, depuis ce début de saison, on retrouve un peu ses lettres de noblesse.
Ils sont que cinquième, hein, cela dit. Hein. Il n'y a rien à dire.
Non, mais
d'accord. Mais
on sent qu'il y a une évolution et ce match en est la preuve. Après, est-ce qu'on peut dire qu'on a vu le meilleur Chelsea depuis le début de saison? On a l'impression que Sarri se saborde un peu en mettant, puisqu'il demande
c'est
activement,
il met Hazard en œuvre.
C'est un laboratoire d'avant-saison, en plein saison.
J'ai l'impression qu'il, qu'il envoie des messages surtout pour réclamer son attaquant.
Alors ça devrait être Higuain.
Ça pourrait. Donc.
Ça aurait dû quoi.
Mais je suis pas persuadé qu'Eden numéro 9, on en avait déjà parlé avec Julien, ça soit la meilleure des idées. Quand t'es un cran plus haut, pareil. J'ai pas vu le Chelsea que j'ai l'habitude de voir ou que j'ai vu il y a quelques mois ou il y a quelques semaines. Eden, tu le vois bien, il était hyper influent. Depuis le début de saison.
Et là, il sort du match. Bah, il était très bon, d'ailleurs, avec Giroud.
Il marque deux buts à tous les matchs, il passe des tout. Là, depuis qu'il joue en neuf,
il sort du match.
Il est moins à l'aise.
Non. Je l'ai vu complètement sortir du match et être perdu, ne sait pas savoir commander le ballon. Alors que même dos au but, il a une facilité dos au but sur le côté. Et dans l'axe, en tant qu'avant-centre, qui n'est pas son job, dos au but, ça n'a rien à voir.
Tiens, on va accueillir Seven, supporter d'Arsenal, qui nous a appelé au 32-16. Seven, salut. C'est ton prénom, d'ailleurs, ou?
Ouais, bonjour à tous, bonjour Ludo, bonjour à tout le monde.
Salut Seven. T'appelles Seven ou Steven, ils sont plantés?
C'est un pseudo, si tu veux, j'ai toujours joué sur un côté en numéro 7 et depuis tout petit.
C'est quoi ton vrai prénom?
Du coup, je garde ça, tu vois. C'est Salim.
Salim, ah, tu l'as bien caché, Salim.
Okay. Voilà. Donc moi, j'ai joué numéro 2, donc je devrais m'appeler tout, quoi.
Excuse-moi, je t'ai pas entendu.
Je jouais numéro 2, moi, par exemple.
Non, t'as été 18.
Mais j'étais pas
sur
toi,
18,
alors.
Sur le banc.
Non, c'était pas tout, c'était rien. Et alors?
Vas-y, Seven.
Alors j'appelle pour parler du match de tout à l'heure entre Arsenal et Chelsea. Effectivement, alors on a vu deux buts. Enfin, le match s'est résumé à deux buts d'Arsenal et ensuite ils ont contenté de gérer leur avantage, etc. Parce que Chelsea était, je trouve, assez désorganisé devant. On trouve effectivement Eden Hazard qui a des difficultés en tant que neuf, 9,5 devant avec des ailiers un peu vieillissants que sont Pedro et le petit William. Donc ça commence à être compliqué. On vous en avait pas trop parlé aussi, mais le rôle de N'Golo Kanté, en fait, si tu veux, Sarri, il privilégie Jorginho devant la défense.
Ah, c'est lui, ouais, c'est lui le maestro.
Voilà, c'est ça. Avec
Salim ou Seven, tu nous as pas entendu, Nico, c'est la première chose qu'il a dit concernant N'Golo Kanté.
Ah, excuse-moi, j'étais avec le
standard. Mais on analyse tout.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué.
Non, c'est pas le fait qu'il joue vraiment un cran. Enfin, il a l'habitude de jouer un tout petit peu plus haut que
de partir de
Jorginho, mais là, il était quasiment presque en tant que numéro de meneur de jeu. Quoi.
Il veut qu'il soit plus présent dans les 30 derniers mètres. Alors,
ça veut rien dire.
Mais juste Seven, une chose. Toi, Arsenal, tu les vois terminer où? Parce que là, ils sont cinquième au final. Est-ce que tu les vois vraiment terminer dans le top 4?
Moi, en fait, il y a une équipe qui revient vraiment bien. Là, il y a United qui revient vraiment pas mal avec Solskjaer. Aujourd'hui, en plus, ils ont encore gagné. Ça va faire 7 victoires consécutives. Je les vois terminer en boulet de canon cette fin de saison et prendre la quatrième place avec Arsenal en 5 et Chelsea en 6, personnellement. Et surtout, Arsenal, là, il y a le petit Guendouzi en ce moment qui est en train d'exploser petit à petit dans l'équipe. Parce qu'on n'en parle pas trop souvent, en général, sur les émissions, etc. Mais un jeune de 19 ans qui arrive à faire son trou dans une équipe comme Arsenal et qui est titulaire tous les week-ends, malgré le fait que parfois il passe à côté de ses matchs et qu'il garde la confiance d'Emery, c'est vraiment quelque chose de vraiment pas mal. Et je pense qu'on risque de le voir assez vite en équipe de France. Je sais pas ce que vous pensez du joueur.
Ne va pas trop vite, ne va pas trop vite.
Ah, il a 19 ans, il est titulaire.
Ça fait quoi? Ça fait 3 saisons à peu près qu'il joue à Arsenal? Titulaire?
Il fait à Guendouzi?
Oui.
Non,
il vient d'arriver cet été.
Ah ben, tu viens de me répondre et tu veux qu'à moins de 3-4 mois, le jeune joueur...
Sachant qu'il a perdu sa place de titulaire pendant un temps, hein, Torreira lui est passé
les
devant.
Les gars, après, c'est pas comparable, mais comme dirait Mbappé, on parle pas d'âge, vous voyez ce que
non,
je veux
non,
dire
non, 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 on parle de Mbappé.
Titulaire indiscutable, Guendouzi l'est pas encore.
Salem, Mbappé, il y en a un. Guendouzi, t'en as des tonnes qui débutent pendant...
C'est vrai que c'est un joueur intéressant.
Ouais. Non, mais c'est ce que je dis. Les Guendouzi, t'en as des tonnes qui font 4-6 mois quand ils débutent et qui sont en pleine forme. Et au moindre moment où il y a la concurrence, où il va sur le banc ou quoi, c'est possible que la machine s'arrête. Donc, attendons qu'il fasse au moins une ou deux saisons.
Mais déjà, il a commencé avec les espoirs, ça s'est bien passé.
Ouais.
Après... À voir, on verra.
Tiens, reste avec nous, parce que tu as fait allusion aussi. Manchester United qui s'impose 2-1 face à Brighton, c'était juste avant. Alors c'est vrai que c'est 7e victoire d'affilée, toute compète confondue pour Solskjaer avec Manchester United. Pogba encore marqué, il a obtenu un péno, il a lui-même transformé aussi. Alors toi, tu disais que tu voyais United terminer en boulet de canon et terminer dans le top 4. Il y a une équipe que t'as pas citée, qui est actuellement sur le podium, mais qui est pas bien non plus parce qu'il y a des joueurs qui sont absents, mais c'est Tottenham. Kane est blessé. Son dispute en ce moment la Coupe d'Asie des Nations avec la Corée du Sud. Tottenham en ce moment.
Non, mais puis ça. Un peu moins bien, quoi. Ça, Harry Kane. Après, Tottenham, c'est pas Tottenham.
United, effectivement. Après, on en a parlé, reparlé, mais Schuskers, il a redonné un vrai vent de fraîcheur par rapport à Mourinho. C'est-à-dire qu'il a fait confiance à des joueurs très rapides qui contribuent à une transition très rapide au milieu avec Pogba et Herrera qui exploitent merveilleusement bien la vitesse des trois devant, Martial, Rashford et Lingard, avec en super sub Lukaku. Je trouve que c'est vraiment pas mal comme chose, et je pense qu'ils vont terminer en boulet de canon cette fin de saison. Et par exemple Pogba là, qui justement Mourinho l'a fait passer comme un virus, enchaîne les perfs sur perfs, et c'est vraiment pas mal. Tottenham, je pense que
c'est plus le même Salem, c'est plus le même Pogba, on l'a vu. On le reconnaît même pas, il fait deux fois
plus. Il a marqué plus de buts là depuis que Solskjaer est là que
c'est même pas ça.
Saison avec Mourinho.
Il joue déjà plus haut, il fait deux fois plus de courses, il récupère deux fois plus le ballon, il a faim, il ne s'arrête jamais, il harangue un petit peu ses coéquipiers dès qu'il y a une balle perdue, dès qu'il y a un mauvais placement en défense. Il ne le faisait jamais ça. Jamais. Là, on dirait qu'il se sent un petit peu comme à un certain moment en équipe de France. Un leader qui veut absolument que son équipe gagne et prend les choses en main.
On revient sur le débat tout à l'heure avec Thierry Henry et sur la confiance. Solskjaer, c'est pas non plus, il a pas une expérience de malade.
Il a été champion avec Molde. Hein. Si. Non, mais c'est très con, hein. Mais
il a eu une bonne et mauvaise expérience aussi en Angleterre où ça s'est passé.
Il a entraîné les moins de 23 United. Il s'est mis les pieds, tu vois. Enfin,
je sais. Non, il a entraîné aussi où c'est un peu planté.
Quand tu vois cette équipe, comment elle est maintenant et ce qu'elle était il y a à peine quelques semaines, tu peux quand même envisager que le rôle psychologique et la façon dont le coach aborde les joueurs et peut avoir une influence.
Merci Seb, merci Ali, merci Ludo, merci à toutes et à tous. Nous on se retrouve demain bien entendu pour un nouvel after, pour le match d'ailleurs, le derby bien sûr entre Saint-Etienne et Lyon. Merci Jérôme Thomas, merci les équipes techniques avec Daniel Torres, et puis nous on vous dit à demain. Ciao ciao.
Ciao ciao.
RMC Football Show, l'after foot.